Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck est effectivement aujourd'hui en direct du stand des produits laitiers au Salon de l'agriculture. Bonjour Franck.
Oui, bonjour Julia, bonjour à tous. Je suis venu un certain nombre de fois dans le passé au Salon de l'agriculture, au sein de cet immense patchwork de terroirs, de cultures, de production et d'élevage. Je vous avoue que je ne savais pas que le stand d'Europe 1 était aussi bien placé. Nous sommes dans l'allée près du prestige des bovins, tout près des vaches, donc c'est assez, on est complètement dans l'ambiance. C'est toujours une belle expérience, vous savez. Je suis ravi cette année d'être ici pour traiter d'un sujet en rapport direct avec le salon, puisque, comme vous le disait Patrick, nous allons parler de l'histoire des paysans français.
Alors, autant dire une longue histoire, Franck.
Plusieurs fois millénaire, Julia. Mais en l'occurrence, si vous le voulez, en compagnie de nos invités que je vais vous présenter dans un instant, c'est l'histoire assez récente des campagnes françaises que j'aimerais aborder, disons, pour fixer des bornes, si vous voulez, que nous allons parler de la période qui va de la guerre de 1870 à celle de 1940, peut-être un peu au-delà, disons 4 ou 5 générations de paysans qui ont transformé l'agriculture en profondeur.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Arrivèrent en effet ces fameux comices. Dès le matin de la solennité, tous les habitants sur leurs portes s'entretenaient des préparatifs. On avait enguirlandé de lierre le fronton de la mairie, une tente dans un pré était dressée pour le festin, et au milieu de la place, devant l'église, une espèce de bombarde devait signaler l'arrivée de monsieur le préfet et le nom des cultivateurs lauréats. Jamais il n'y avait eu pareil déploiement de pompe. Plusieurs bourgeois, dès la veille, avaient lavé leur maison. Des drapeaux tricolores pendaient aux fenêtres entrouvertes. Tous les cabarets étaient pleins. Et par le beau temps qu'il faisait, les bonnets empesés, les croix d'or et les fichus de couleur paraissaient plus blancs que neige, miroitaient au soleil clair et relevaient de leur bigarrure éparpillée la sombre monotonie des redingotes et des bourgerons bleus. Les fermières des environs retiraient en descendant de cheval la grosse épingle qui leur serrait autour du corps, la robe retroussée de peur des taches, et les maris, au contraire, afin de ménager leur chapeau, gardaient par-dessus des mouchoirs de poche dont ils tenaient un angle entre les dents. La foule arrivait par la grande rue, par les deux bouts du village. Il s'en dégorgeait des ruelles, des allées, des maisons, et l'on entendait de temps à autre retomber le marteau des portes derrière les bourgeoises en gants de fil qui sortaient pour aller voir la fête. Ce que l'on admirait surtout, c'était deux longs ifs couverts de lampions qui flanquaient une estrade où s'allaient tenir les autorités, et il y avait de plus, contre les quatre colonnes de la mairie, quatre manières de Gaulle portant chacun un petit étendard de toile verdâtre, enrichi d'inscriptions en lettres d'or. On lisait sur l'un « au commerce », sur l'autre « à l'agriculture », sur le troisième « à l'industrie » et sur le quatrième « aux beaux-arts ». Ainsi Flaubert, dans Madame Bovary, lance-t-il la description de ces fameux comices agricoles. On est un peu après le milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, au moment de l'apogée de l'agriculture en France. Le monde rural, à cette époque-là, est prédominant. Il alimente la richesse du pays. Il occupe plus de la moitié, même largement plus de la moitié de la population active. Et au-delà de ses aspects économiques, il imprègne tout l'imaginaire social. Le monde rural, ces paysans dont nous allons parler aujourd'hui, ce ne sont pas nécessairement des cultivateurs. Il existe aussi tout un artisanat rural et bien sûr des pharmaciens, des notaires, je reviens à Flaubert, des professions libérales de campagne. Quant aux citadins de l'époque, ils ont tous de fortes attaches dans le terroir, dont il est fréquent du reste qu'ils soient originaires. Ils y passent même souvent une partie de l'année. Un ouvrage, pourtant industrialiste, comme Le Tour de la France par deux enfants, met en avant toutes les spécialités rurales de chaque région traversée et d'une façon générale, le pays vit au rythme des semailles et des moissons. Dans cette émission, nous allons évoquer la vie quotidienne des paysans et son évolution depuis la Belle Époque, quasiment jusqu'à nos jours. Nous allons parler de la politisation des campagnes qui a joué un rôle important dans les débuts de la Troisième République. Nous allons parler évidemment de la Grande Guerre en 14-18 et de ses conséquences, de l'exaspération des salariés agricoles pendant l'entre-deux-guerres, des profondes mutations du lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et tout cela, nous allons le faire en prenant appui sur un bel album de Philippe Madeline et Jean-Marc Morisseau. Ça s'appelle les paysans, récits, témoignages et archives de la France agricole de 1870 à 1970. Et alors, ça fait partie de ces livres qui sont extrêmement agréables à feuilleter puisqu'ils sont pleins de petits dépliants, de cartes, de mémorabilia divers. C'est un véritable jeu. Il y a un siècle et demi, le roman, nous l'avons vu, la peinture, avec par exemple l'école de Barbizon, jusqu'à la musique, était encore tout imprégné de ruralité, et les chansons de rue ou de cabaret ne faisaient pas exception à la règle. Je pense, en vous disant cela, bien sûr, au célèbre titre créé en 1882 par Marius Richard, « La chanson des blés d'or ».
Quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blés d'or. Nous irons écouter la chanson des blés d'or.
Armand Mestral sur Europe 1 avec la chanson des blés d'or. Restez à l'écoute de votre émission. Émission spéciale aujourd'hui de Franck Ferrand depuis le Salon de l'Agriculture.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous vous retrouvons, Franck, en direct du stand des produits laitiers au Salon de l'Agriculture à Parly pour parler des paysans, de paysannerie, autrement dit, des racines de la France.
Exactement. Alors nous sommes en compagnie de nos deux invités. Jean-Marc Morisseau est historien, Philippe Madeline est géographe et tous deux co-dirigent le pôle rural de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines à l'Université de Caen-Basse-Normandie. C'est assez rare qu'un historien et un géographe travaillent ensemble et on peut dire que le fruit de leurs efforts est magnifique car j'ai entre les mains leur très bel ouvrage, cet ouvrage qui parle donc de toute l'histoire des paysans de France depuis 1870 jusqu'en 1970. Et comme je le disais tout à l'heure, il est bourré de petits trésors. Vous avez des plans, vous avez des cartes, toutes sortes des facsimilés de lettres, des photographies, des cartes postales, tout ça, vous découvrez au fur et à mesure dans des soufflets, dans des poches qui se trouvent à l'intérieur de l'ouvrage. Et puis, il est très bien chapitré par double page. Et d'ailleurs, si vous le voulez bien, messieurs, nous allons suivre le plan de votre ouvrage pour évoquer cette paysannerie. Alors, je disais à l'instant, Jean-Marc Morisseau, que dans les années 1870, on est à l'apogée de l'agriculture en France et que le monde rural domine complètement la société française.
Le monde rural est majoritaire, très majoritaire. Il y a peut-être 75% de Français qui habitent en permanence à la campagne. Les paysans constituent le groupe professionnel majoritaire également de la France. L'agriculture est présentée au Palais de l'Industrie dans les concours généraux internationaux et fait la gloire du Second Empire. Et il est vrai que l'essentiel de la population vit au rythme des champs dans une société où même les enfants ne vont pas encore tout
voilà,
à l'école,
sûr, oui.
Mais travaillent dans l'agriculture.
Alors, évidemment, le géographe Philippe Madeline va me dire que la physionomie des campagnes était très différente parce qu'elles étaient tout simplement beaucoup, beaucoup plus peuplées qu'aujourd'hui.
Effectivement, c'est la majorité de la population française. Et cela jusqu'au moins les années 1930. Et donc, effectivement, il y a, comme vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de paysans, mais il y a aussi, à travers ce terme de paysans, des grands propriétaires, des petits propriétaires,
de tout,
des domestiques,
sûr, oui.
Des journaliers, et puis aussi beaucoup d'artisans.
Et puis on a une agriculture qui, étant très peu mécanisée, demande énormément de bras, bien entendu, ce qui fait qu'il y a, j'allais dire, tout un prolétariat rural, est-ce que je peux employer l'expression ?
Ah, tout à fait. Il y a vraiment un prolétariat très très important. Depuis, comme je le disais, les journaliers, les manœuvriers, les domestiques, qui peuplent ces campagnes et qui travaillent tous les jours de façon très, très difficile, très dure dans ces exploitations.
Alors ce qui est vraiment remarquable dans votre ouvrage à tous les deux, qui s'appelle donc « Les paysans, récits, témoignages et archives de la France agricole », c'est que vous remontez assez loin, dès 1870. On a eu, dans les années qui ont passé, on a eu un certain nombre d'albums de belles photos sur la France rurale des années 30, 40, etc. C'est assez connu. Là, vous remontez assez loin et vous remontez aussi loin que vous le permet l'abondance des documents sur cette ruralité triomphante.
Tout à fait. C'est le parti à la fois des auteurs et de l'éditeur, car ce livre est le produit d'un métayage, un véritable compromis entre propriétaires et locataires. nous deux, nous sommes les bouviers, en quelque sorte, qui avons conduit l'attelage des arènes vers les paysans le plus loin possible dans le 19e siècle, c'est-à-dire à l'apparition de la photographie,
voilà,
qui permet vraiment de rendre très identitaire et très concret les portraits, les visages des paysans.
Et oui.
Mais on voulait montrer ces paysans à l'époque où ils étaient majoritaires. Et évidemment, on a défilé le temps ensuite, à travers quatre générations, jusqu'aux photographies couleurs qui apparaissent dans les fermes et dans les maisons à partir de 1960 et 70.
Il y a les photos, mais il y a aussi tous les témoignages, parce qu'évidemment, avec l'école obligatoire, peu à peu, l'alphabétisation fait des progrès dans les campagnes et les paysans se mettent à s'écrire et donc à laisser des traces.
Effectivement, les lois Ferry du début des années 1880 vont apporter un grand changement, puisque les paysans vont se mettre à écrire. Et ils écrivent beaucoup. Ils écrivent dans des cahiers, dans des agendas, notamment à partir du moment où les agendas sont industrialisés. Mais ils vont beaucoup écrire et ce sont tous... Et puis ils écrivent aussi des lettres, beaucoup de lettres et de cartes postales.
Alors, Jean-Marc Morisseau parlait tout à l'heure d'attelage. Vous commencez justement cet ouvrage par un chapitre sur le temps des attelages. Nous allons voir justement ce qu'étaient ces attelages dans la France, dans les campagnes de France des années 1870-1880.
Franck Ferrand sur Europe 1.
À la campagne, avec ma compagne, on vit bien tranquille comme deux insouciants. À la campagne, avec ma compagne, on est bien heureux près de nos deux bœufs. Quand il faut semer, tous les jours on sème. Et le soir, quand on a semé, alors on s'aime, car vous le comprenez.
Bourville sur Europe 1 avec La Campagne, avec puisque je vous rappelle campagne, que Franck vous propose une émission spéciale aujourd'hui en direct du stand des produits laitiers au Salon de l'Agriculture. Et vous êtes toujours en compagnie de Philippe Madeline, qui est géographe spécialiste des campagnes françaises, et Jean-Marc Morisseau, professeur d'histoire à l'Université de Caen, membre de l'Institut universitaire de France.
Eh oui, Julia, ça a l'air de vous faire rire, Bourville.
Mais c'est Bourville que j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup d'affection.
On est loin des champs de labour, pour tout vous dire. Et alors, évidemment, on est à une époque, on parle là de la fin du 19e siècle, où le tracteur n'existe pas et où tout se fait par traction animale. Hein, faut pas oublier. Alors, ce sont les paires de bœufs. Ça, j'ai deux grands bœufs dans mon étable, mais pas seulement.
Non, il n'y a pas que les bœufs. Il y a aussi les vaches et puis les chevaux, mais aussi parfois les ânes. Donc, on a tout...
Ce sont les chevaux plutôt dans le nord, l'est de la France, aussi dans l'ouest d'ailleurs, parce qu'il y a les percherons.
Mais plutôt dans les zones de grande culture.
De grande culture, oui,
effectivement.
C'est ça. Alors on a évidemment, vous nous montrez le rôle de ces attelages, ça nous amène à l'importance de l'élevage. Il ne faut pas oublier qu'on a en France une agriculture riche, entre guillemets, avec beaucoup de bétail. D'ailleurs nous sommes nous ici tout près de l'exposition de toutes ces vaches que nous voyons depuis le stand d'Europe 1. On faisait déjà des concours et on récompensait déjà les plus belles bêtes à l'époque.
Tout à fait. Il faut bien voir que l'élevage est la plus grande richesse de la France depuis le Moyen-Âge, bien plus que le blé. On a tendance à croire que c'est la céréaliculture qui a été dominante. Or, c'est le bétail qui est la richesse la plus partagée. Il y a un bétail du pauvre comme un bétail du riche. Toutes les catégories sociales ont des vaches, par exemple. Et à une époque où le livret de caisse d'épargne n'existe pas, c'est le bagage cheptel qui sert aux gens des villes à placer leurs économies à la campagne. Donc, des animaux, il y en a partout. Et quand les premiers concours agricoles se créent, dans les années 1750, il y a le bétail qui est là comme bétail de trait d'abord, parce que c'est des concours de charrues qui ont lieu dans les grandes fermes d'Île-de-France. Et ensuite, au 19e siècle, quand le premier concours général agricole se crée en 1844, c'est autour du bétail d'élevage cette fois, puisque c'est autour de la caisse de Poissy, qui était le centre d'arrivée de la viande à Paris,
eh oui,
que s'organise
sûr, oui.
ce concours.
Alors ces concours évidemment sont un élément de vie dans les campagnes. On va voir autour de quoi s'organise la sociabilité rurale. Mais ce que je voudrais, avant qu'on en vienne là, c'est qu'on rappelle que les campagnes de l'époque ne sont pas peuplées seulement de cultivateurs, loin de là. Il y a d'abord... dans l'agriculture elle-même, il y a toutes les strates sociales, on l'a bien compris, hein, ça va du très grand propriétaire jusqu'au laboureur à bras qui loue littéralement ses bras et qui est le journalier, on va dire. Et puis, il y a aussi toute une population qui est rurale sans être agricole, en vérité.
Il y a beaucoup d'artisans, à commencer par l'artisanat agricole. le maréchal Ferrand, le charron, le cordier, par exemple, mais il y a également l'artisanat textile, à une époque où l'industrie n'est pas dans les villes, mais dans les campagnes. Donc la plupart de la main-d'œuvre industrielle se trouve dans le monde rural. Et s'ajoutent évidemment les services, les commerçants et toutes ces strates de petits officiers, de petits administrateurs qui se trouvent dans le plat pays.
Alors évidemment, comme l'agriculture n'est pas encore très spécialisée, on peut dire que les journées sont longues, Philippe Madeline. Il faut parer à toutes les tâches.
Tout à fait. On est loin encore de la spécialisation que l'on connaît aujourd'hui. On fait tout sur les exploitations. Et comme l'a dit Jean-Marc, on a des céréales, mais on a aussi des animaux sur l'exploitation pour subvenir le plus possible à la vie familiale, aux repas familiaux, et puis pour vendre les surplus. Donc, on fait tout. Et donc les journées sont très longues parce que justement il y a beaucoup de tâches, il y a de multiples tâches à effectuer.
Et dès qu'arrive la mauvaise saison, évidemment on a tendance à se retrouver autour de ce qui est le foyer au sens propre dans chaque maison. C'est-à-dire, on avait parlé de ça avec Jean-Louis Bocarnot il y a quelques mois, c'est-à-dire la cheminée qui sert de lieu de rencontre parce que c'est là qu'il fait un peu moins froid. Et surtout ça sert d'éclairage aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est un éclairage économique si l'on peut dire.
Mais les paysans sont loin de rester longtemps près de ce foyer, puisqu'il y a quand même des travaux d'hiver qu'il faut faire, justement, quand on a des animaux. Et puis aussi les labours. Mais effectivement.
Et puis on travaille le textile aussi, faut pas l'oublier pendant l'hiver.
Mais le feu, c'est capital. Depuis le Moyen-Âge au moins, c'est l'unité économique de base pour les recensements, pour les dénombrements.
On se rappelle les travaux de Vauban sur les
tout
feux.
Tout à fait, tout à fait. Donc autour de la cheminée, qui concentre le lit également, il y a les salles ne se développent qu'après, la salle à manger n'apparaît qu'au. À la fin du 19e et au 20e siècle surtout. Donc la vie se replie autour de la cheminée, autour du feu.
Et il y a une véritable institution d'une grande importance qui est au cœur même de la vie des campagnes à la mauvaise saison, c'est la veillée.
Bien sûr.
Et les veillées, elles ont existé jusqu'au milieu des années 50 en France, d'ailleurs, 1950.
Jusqu'à la télévision.
Jusqu'à la télé, oui, évidemment. C'est la télé qui a tué la veillée. Il faut expliquer en deux mots c'était.
Pas tout de suite. Parce qu'au début, quand la télévision est arrivée dans les campagnes, elle a été un instrument de sociabilité. La télévision a été placée dans les cafés, par exemple, et les gens venaient ensemble faire la veillée autour de la télévision pendant 4 ou 5 ans. Ce n'est qu'après que la télévision arrivée dans le foyer a individualisé en quelque sorte la vie sociale qui était collective.
Et ça a été la fin de mes grands confrères, si je puis dire. C'était la fin des conteurs, notamment, qui, pendant tant de siècles, avaient animé les veillées et avaient assuré, par voie orale, la transmission non seulement de certaines légendes, de certains contes propres à la ruralité, mais aussi tout simplement d'un certain nombre de savoirs. Puisqu'on parle de savoir, on en vient dans un instant avec votre chapitre qui s'appelle « La maison d'école ». On en vient à l'enseignement dans les campagnes, tout simplement, disons, à la belle époque.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous retrouvons Franck en direct du stand des produits laitiers au Salon de l'agriculture à Paris pour une émission qui nous plonge au cœur de l'histoire des paysans de France.
Et oui, nous sommes tout près des vaches, Julia, mais elles ne veulent pas. On aimerait bien qu'elles fassent un peu de bruit.
Mais
non, elles sont d'un silence et elles sont très sages, ces demoiselles. Alors, je suis en train toujours de feuilleter ce très beau livre qui s'appelle « Les paysans », tout simplement, « Récits, témoignages et archives de la France agricole de 1870 à 1970 ». C'est édité aux éditions des Arènes. Vous vous rappelez, on était allé d'ailleurs sur place aux éditions des Arènes il y a quelque temps. Et j'en suis à la page « La maison d'école ». Alors, il y a une pochette dans laquelle on trouve un buvard, des dessins d'enfants, un brevet de capacité du second ordre, donc un brevet élémentaire, si vous voulez, et puis une distribution des prix, vous avez des bons points, enfin, toutes sortes de souvenirs d'école. Et sur cette pochette, il y a une photo. Et à l'instant, Jean-Marc Morisseau me faisait remarquer que c'est sa propre arrière-grand-mère qui est au cœur et qui était donc institutrice, c'est ça ?
Tout à fait, elle était institutrice à Brujas, dans l'Allier, dans les années 1870-80. Et elle était l'une des premières normaliennes qui a eu ce brevet qui lui a permis d'enseigner. Le brevet qui se trouve donc dans
ce fameux brevet-là. Voilà.
Oui. Mais ce type de document est issu des archives familiales et des greniers, comme beaucoup de documents qui sont reproduits ici. Car c'est l'un des intérêts du livre, d'avoir mobilisé ainsi les archives vues d'en bas, les archives des familles elles-mêmes.
Alors, nous avons tout à l'heure glissé le nom de Jules Ferry. La Troisième République a alphabétisé les campagnes de façon assez spectaculaire. Et en retour, si je puis dire, les campagnes ont appuyé, ont soutenu le régime.
Oui.
Longtemps, les paysans ont eu la réputation d'être monarchistes. Ils votaient d'ailleurs clairement très à droite. Et puis, petit à petit, on les a vus adopter le régime républicain. Philippe Madeline.
Ce sont les lois de Jules Ferry de 1881 et 1882 qui vont instaurer l'école publique gratuite et laïque. Hein, pour les enfants, qui va instaurer l'instruction primaire pour les enfants de garçons et filles de 6 à 13 ans. Effectivement, avec l'école publique, mais aussi avec le droit de vote, hein, on va développer une démocratisation dans les campagnes qui vont conduire à ce que certains ont appelé la républicanisation de l'agriculture.
Alors évidemment, j'aimerais parler d'autres sujets, parce que là, je vais un peu vite. Hein. Vous avez une double page sur la dévastation des vignes avec le phylloxéra. Il faudrait parler du mildiou aussi. Enfin bon, il y a eu énormément d'événements. Il y a la révolte, évidemment aussi, des vignerons du Midi en 1907. Mais le grand événement, ce qui va être la cataracte en quelque sorte, et qui est en même temps la grande saignée des campagnes françaises, c'est évidemment la guerre de 14. Là, d'un seul coup, on va demander aux paysans de monter au front.
1 700 000 cultivateurs, chefs d'exploitation sont partis au front.
Ouais, incroyable.
Et 1 700 000 exploitations sont gérées par des femmes.
Oh là là, oui.
Et là, il y a vraiment un choc qui se fait, parce qu'on pensait que la guerre allait durer 3 mois, elle dure 4 ans. Et donc, les cultivateurs partis au front.
Oui, on était habitués à des guerres relativement courtes, en tout cas pour les guerres de conscription. Et puis d'un seul coup, on a ce conflit qui s'enlise et qui va s'éterniser. Et il faut que les femmes prennent le relais, qu'elles organisent les exploitations et qu'elles se livrent elles-mêmes aux travaux agricoles.
C'est ce que montre une lettre que nous reproduisons.
Oui, tout à fait,
là,
oui.
Une lettre de Jean-Claude Page, qui est un cultivateur du sud de la Saône-et-Loire, dans le Brionnais. Il est mobilisé sur le front de l'Est, en Alsace.
Il écrit au crayon violet, comme on faisait dans les tranchées. Hein.
Sur une petite cartelette à sa femme, après lui avoir donné tous les conseils de travail à la ferme, je me demande si parfois vous n'allez pas nous trouver encombrants après la guerre. On tâchera de se faire tout petit.
Eh oui.
Parce que maintenant, il a donné toutes les recettes, en quelque sorte. Il a perdu ses prérogatives. Les femmes savent se débrouiller à la ferme.
Combien de ces paysans sont-ils morts, Philippe Madeline ?
Un peu moins de 700 000. Donc c'est une saignée extraordinaire dans les campagnes françaises. Et là, c'est sans précédent. Et donc c'est ce qui explique toutes les difficultés de remise en route aussi de l'agriculture après le conflit, et notamment dans les zones les plus dévastées, évidemment.
Alors cette contribution considérable des campagnes à la guerre de 14, elle est patente lorsqu'on se promène dans les villages de France. Il suffit de jeter un œil aux monuments aux morts. J'en profite, c'est une petite parenthèse pour rappeler à quel point il est important de les entretenir et de les tenir en bon état, tous ces monuments aux morts dont certains parfois ont tendance quand même à être un peu oubliés par leur commune.
Et ces monuments aux morts nous dessinent la carte de la France rurale du début du XXe siècle. Regardez-les et vous verrez les hameaux. Vous verrez les villages qui sont isolés, qui apparaissent à côté du bourg, dans une civilisation avec un habitat qui était encore très dispersé.
Alors Jean-Marc Morisseau, est-ce que la guerre, comme dans d'autres domaines, je songe évidemment à l'industrie, je songe à la reconstruction d'un certain nombre de villes, est-ce que la guerre a apporté, cette grande guerre de 14-18, a apporté des progrès dans les campagnes ?
Assez peu. Elle a évidemment favorisé un petit peu le développement de l'électricité qui va se développer dans les années 20. Évidemment, elle a assurer un petit peu le développement de la mécanisation, mais d'une manière relativement modeste. Elle n'a pas l'incidence qu'aura la Seconde Guerre mondiale.
Et politiquement, est-ce que l'on peut pas dire qu'un certain nombre de paysans, je pense notamment alors là, aux plus modestes, aux ouvriers journaliers par exemple, n'ont pas pris conscience dans les tranchées de leur appartenance quasiment à une forme de classe ou de groupe social, puisque jusqu'alors ils étaient très dispersés dans leurs régions respectives, et d'un seul coup, avec leur patois, avec leurs habitudes, avec des façons d'être et de parler qui parfois sont difficiles à faire cohabiter dans les tranchées, ils découvrent qu'ils ne sont pas seuls, loin de là.
Ils découvrent que leur pays, ce n'est pas le Brionnais ou ce n'est pas le Charolais, c'est la France.
C'est ça.
Mais ce n'est pas encore fini. Les guerres napoléoniennes avaient déjà commencé à le faire. La guerre de 14 le poursuit. Encore en 1940, on a retrouvé dans ce livre la trace d'un petit paysan de Camembert qui écrit de Russie que son pays à lui, c'est le pays de Camembert. C'est pas la France encore. Hein. Donc c'est tout un processus d'acculturation, mais il est évident que la guerre de 14 a joué un rôle très important.
À la fin de cette guerre, donc on va basculer dans cette entre-deux-guerres qui est le moment de modernisation des campagnes françaises. On va notamment, cette modernisation, elle va passer par l'électrification. C'est-à-dire que l'arrivée de l'électricité au village, ça change tout. Ça a été dès le tournant du siècle. Hein. Les premiers villages sont électrifiés 1901, 1902. Mais c'est vrai que c'est à partir de 1919, 20, 21 que l'électricité entre à la ferme, si je puis dire.
Et là, la guerre aura joué un rôle, dans la mesure où de nombreux paysans passent dans des villages et des villes éclairées. Et là, effectivement, quand ils reviennent sur leur terre, eh bien, ils font en sorte que, justement, cet éclairage puisse arriver dans les campagnes.
Quand ils reviennent, ceux qui reviennent, ceux qui évidemment, reviennent. Rappelons-nous toute la blessure terrible pour la France en général, mais pour les campagnes en particulier, je vous propose d'entendre quelques accents de la chanson de Craon.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés.
Marc Augeret sur Europe 1 avec la chanson de Craon, une émission d'Au cœur de l'histoire spéciale qui rend hommage au monde paysan. On se retrouve dans un court instant sur Europe 1. Et je vous rappelle que Franck s'intéresse aujourd'hui aux paysans de France. Franck est toujours en direct depuis le stand des produits laitiers au Salon de l'Agriculture.
Et oui, Julia, et à l'instant, mes deux invités me rappelaient, et j'avais promis de le dire, et c'est vrai que c'est un très intéressant, que leurs études au pôle rural donc, de cette université de Caen, anime une page Facebook qui s'appelle tout simplement Pôle Rural, donc, sur laquelle vous pouvez aller et vous trouverez tout un ensemble d'éléments et d'informations sur, justement, sur tout ce dont nous sommes en train de parler. Alors, 1931, entre les deux guerres, c'est une date très importante parce que c'est le moment où, statistiquement, la population rurale cesse d'être majoritaire en France. Elle l'avait évidemment toujours été, mais nous avons dit à quel point, à la fin du 19e siècle, il y avait eu cet apogée qui faisait du monde rural une sorte de... c'était le pôle dominant de la société française. Et d'un seul coup, il y a plus de citadins que de ruraux. Ça, ça change tout, évidemment.
Et c'est une originalité en Europe. 50 ans après l'Allemagne, 100 ans après le Royaume-Uni seulement...
On était en retard pour ça, oui, oui.
La France voit la population urbaine devenir majoritaire, hein, mais de peu. Hein. Il va falloir attendre quand même la Seconde Guerre mondiale pour que vraiment le rapport bascule véritablement. Là, les recensements, simplement, nous permettent de nous en rendre compte. Sans doute, c'est vers 1930. Sans doute que, statistiquement, la population agglomérée au chef-lieu à plus de 2000 habitants est devenue majoritaire en France. Ce qui veut dire que la France est encore... un pays de très petites communes, de très petites communautés, de petits villages, hein, qui agglomérés les uns aux autres, finalement, constituent presque la majorité de la population.
Mais alors, où est-elle, cette population des campagnes qui se retrouve dans les villes où est-elle, mais pourquoi part-elle, plutôt ?
Elle part déjà parce que y a de l'emploi. L'emploi se crée dans les grandes villes. Et puis, il y a aussi un appel à une modernisation, à un confort de vie, hein, qui ne va cesser de se poursuivre pendant toute la fin de la première moitié du XXe siècle, et puis surtout après la guerre. Et cet appel à la fois du travail et des changements qui viennent dans les campagnes font que de nombreux ruraux partent vers la ville.
Oui. Et quand vous dites de nombreux ruraux, notamment tout ce tissu des villages dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément des exploitants agricoles, encore
bien
une fois.
Bien sûr, hein. Beaucoup d'artisans.
Des artisans, notamment. Parce que tout simplement, les outils, tout ce qui était avant fabriqué dans les villages même, peut être acheté, manufacturé, et souvent en produits d'importation, d'ailleurs. Il ne faut pas oublier cet aspect-là.
C'est notamment pour le matériel agricole. Hein. Beaucoup de matériel agricole... arrivent hein, à la fois des États-Unis, d'Angleterre, d'Allemagne et viennent renforcer hein, la force de travail dans les campagnes.
Et si vous me permettez, excusez-moi, l'école, elle capture également beaucoup d'enfants qui jusque-là étaient restés au champ.
Voilà.
Faut pas oublier que l'école, à la fin du 19e siècle, même à l'époque des lois Ferry, elle n'arrive pas à imposer.
D'ailleurs, le calendrier scolaire est littéralement calqué sur le calendrier agricole.
Il est calqué. Mais il faut attendre 30 ans ou 40 ans pour que l'obligation scolaire véritablement
s'impose. Voilà.
Et entraîne vers la ville, évidemment, une grande partie des enfants.
Dans chaque village, il y a l'instituteur, certes, mais aussi le curé, qui souvent ne sont pas d'accord, bien entendu, puisqu'ils représentent les deux grandes tendances de la société française depuis, j'allais dire, quasiment depuis la nuit des temps, d'ailleurs. Le curé joue un rôle très important. Ce que vous nous montrez très bien, c'est que les campagnes françaises sont des campagnes chrétiennes, encore, dans l'entre-deux-guerres.
Bien sûr. Le calendrier agropastoral est émaillé des fêtes religieuses. Et ces fêtes religieuses...
Même s'il y en a moins qu'il y en a eu.
Oui, elles sont encore très nombreuses. Hein, parmi les plus grandes, la Toussaint, les Rameaux.
Évidemment,
et là, évidemment,
la Saint-Jean, tout ça.
Et là, c'est le lieu où l'ensemble de la population se retrouve. Hein, c'est un ferment des sociabilités locales.
Et cette, on va dire, ce tissu chrétien, il s'est maintenu quasiment jusqu'à nos jours. Il existe encore.
Il est encore présent, mais la déchristianisation commence, on va dire, dès que la population des villes devient majoritaire. Et alors, même s'il y a, il se passe des moments forts, comme en 1929, la création de la jeunesse agricole catholique, qui fera beaucoup parler d'elle après la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a ces éléments de renforcement hein, de la vie sociale autour de la chrétienté.
Alors excusez-moi, il y a aussi une géographie culturelle. Hein. Il y a des régions comme le Limousin, par exemple,
bien sûr, oui, qui sont beaucoup moins,
qui sont plus à gauche, oui, en quelque sûr, sorte, oui, que des régions de l'Ouest. Enfin,
comme la Bretagne, etc., qui sont beaucoup plus chrétiennes. Alors ce sont les vieilles tendances historiques des différents terroirs de France.
Nous parlions tout à l'heure d'une prise de conscience politique de la part des plus faibles, des plus modestes parmi les paysans. À partir du milieu des années 30, la colère va prendre corps et on assiste, à la faveur du Front populaire et de tout le mouvement politique de 1936. On assiste à des grèves paysannes et à des révoltes, en vérité.
Alors, il faut bien voir que ces grèves sont très visibles. Des grèves paysannes, il y en a depuis 1750 dans les,
oui,
grands,
ça, il faut le préciser,
dans les,
raison,
dans,
oui,
les grandes plaines à blé,
c'est,
du bassin,
c'est pas
parisien,
une nouveauté, oui.
On en a au XVIIIe siècle. Ça s'appelait les bacchanales de moisson. Mais à l'époque du Front populaire et pendant la Grande Dépression des années 30, elles prennent évidemment un relief nouveau qui oblige à des conventions collectives et qui favorise la motorisation en même temps. Parce que beaucoup de patrons qui voient les revendications monter choisissent de se mécaniser dans les très grandes exploitations.
C'est-à-dire que, en fait, pour essayer d'éviter, pour contourner ce problème social, ça va être un facteur d'accélération de la mécanisation de l'agriculture, en vérité. Hein. C'est ça, ce que vous
c'est
me dites.
C'est un facteur. Oui.
C'est un facteur. Oui, ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'ai sous les yeux un facsimilé de lettres datées du 20 juillet 1936 qui est adressé par un agriculteur, enfin, par un exploitant agricole d'une assez grosse exploitation, semble-t-il, au préfet de l'Aisne. Alors ça fait partie des documents hein, qui émaillent et qui agrémentent la lecture de votre ouvrage. Et l'exploitant se plaint amèrement au préfet de la grève sur ses terres. Et il dit que si la force publique n'intervient pas pour l'aider à remettre de l'ordre, ça risque d'aller très loin et de créer beaucoup de violence, dit-il.
On trouve surtout...
Une menace au préfet, quasiment.
Oui, on trouve surtout ces témoignages hein, dans les zones de grande culture. Hein. Et parce que la main-d'œuvre agricole y est très importante. C'est un élément très important qui va conduire, on est dans une période de crise, de baisse des prix très importante d'agriculture, qui va conduire à malheureusement des drames que l'on connaît encore aujourd'hui dans les campagnes, c'est-à-dire des suicides.
Eh oui,
beaucoup
bien
de suicides,
hein,
de paysans.
Vous parlez d'ailleurs du suicide d'un agriculteur à Puy-Mangou en Dordogne, un jeune métayer, père de 9 enfants, se suicide après la naissance de 2 jumelles, se sentant incapable de faire face à cette surcharge de dépenses. C'est en tout cas le titre de l'article du Réveil Charentais en 1930. Alors, nous allons parler dans un instant de la Seconde Guerre mondiale avec tous les paradoxes, évidemment, comme à chaque fois qu'on parle de cette période troublée hein, de l'occupation, évidemment. D'un côté, un régime, celui de Vichy, qui va favoriser les paysans, et puis d'un autre côté, les prisonniers de guerre, le STO et la naissance par réaction de la résistance, bien entendu.
Émission spéciale aujourd'hui, toujours en direct du stand des produits laitiers au Salon de l'Agriculture à Paris avec vos invités Franck sur Europe 1, le géographe Philippe Madeline et l'historien Jean-Marc Morisseau.
Et qui donc tous deux ont écrit ce très beau livre « Les paysans, récits, témoignages et archives de la France agricole » de 1870 à 1970. C'est publié chez Les Arènes avec donc tous ces petits souvenirs, on peut dire, qui émaillent toutes les pages de ce livre. Et alors pour tous ceux qui sont ici au Salon de l'Agriculture et qui nous demandent de façon de plus en plus pressante où l'on peut trouver le livre, je leur signale qu'on peut le trouver au stand de la France agricole, c'est au hall 4 en fait. Nous sommes ici dans le pavillon 3, il faut aller dans le pavillon 4. Voilà madame, je vois que vous y courez déjà. Alors nous avons en face de nous donc le public hein, qui défile, qui vient voir évidemment les véritables stars de ce salon qui sont de l'autre côté de l'allée. Hein, ce sont les vaches, elles viennent de se lever, certaines d'entre elles. Elles sont très hautement encornées, je ne sais pas exactement ce que c'est. Je crois qu'il y avait une limousine là-bas dans le coin. Je ne connais pas toutes les races de vaches. Et alors je me rappelle m'être un jour trompé, j'avais confondu charolaise et limousine. Ça m'avait valu plus de 50 appels au standard, donc je vais rester prudent aujourd'hui.
Nous parlions de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, évidemment, pour les campagnes de France, cette Deuxième Guerre mondiale a été moins lourde, si l'on peut dire, que la première, puisque la première, on avait vu 1 700 000 paysans partir. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale a une toute autre structure et les paysans restent dans les exploitations pour une partie d'entre eux.
Tout à fait. Hein. La rupture est moins importante. Dans la mesure où la mobilisation dure moins longtemps, bien sûr, il y a des prisonniers, beaucoup resteront en Allemagne, certains seront rapatriés, mais beaucoup d'exploitations gardent en quelque sorte l'essentiel de leur force vive. Simplement, à partir de 1943, les jeunes sont envoyés au service du travail obligatoire, et on l'oublie trop souvent, et beaucoup de paysans sont partis ainsi en Allemagne.
C'est-à-dire qu'en 1943, c'est donc le STO, hein, c'est cette ponction que fait l'Allemagne sur la main-d'œuvre française. Alors d'abord industrielle dans les premières années, et puis quand on n'a plus assez de main-d'œuvre disponible, eh bien on va aller la chercher chez les paysans. Et évidemment, ça va créer chez les plus jeunes, parce que les classes d'âge appelées sont ceux de 19-20 ans, donc ça va créer chez eux l'envie de se soustraire à ce STO, et donc d'entrer dans la résistance. Ça, c'est un des facteurs importants de la résistance, hein.
Oui, encore que le choix n'était pas facile, puisqu'il y avait des menaces de représailles sur les familles.
Terrible, oui, bien sûr.
Sur les familles. Hein. Donc, véritable dilemme. Hein. Et d'autant plus que ces choix se faisaient à plusieurs. C'était quand même les jeunes de 20 ans du canton qui se retrouvaient ensemble et qui devaient décider ensemble est-ce qu'ils iraient ou est-ce qu'ils n'iraient pas. Donc, bien sûr, il y a de la résistance, mais la majorité sont allés au STO.
Alors, entre ceux qui sont mobilisés par le STO et les prisonniers de guerre, ça veut dire quand même qu'il manque un certain nombre de chefs d'exploitation, mais aussi de main-d'œuvre dans les fermes. Et de nouveau, on va voir... D'ailleurs, vous avez mis une photo de votre grand-père, René Madeline. Hein,
oui, tout à fait.
En tenue de combat.
Oui, dans un épisode assez peu connu, c'est-à-dire qu'il est mobilisé... Il avait déjà été mobilisé en 1914, puis il est remobilisé en 40, et il est fait prisonnier. Et dans l'attente de partir dans un camp de prisonniers en Allemagne, il fait la moisson dans un petit village de l'Aisne, Assis le Petit, hein, pendant l'été 1940.
Alors il y a d'ailleurs ce document assez intéressant de ce mari qui explique à sa femme comment elle doit s'y prendre, hein, pendant son absence. Enfin, c'était sur l'autre conflit. La Seconde Guerre mondiale, c'est aussi l'époque du régime de Vichy. Et comme disait le maréchal Pétain, la terre, elle, ne ment pas. On va mettre les paysans en avant dans cette affaire, Jean-Marc Morisseau.
Tout à fait. Les paysans sont crédités en quelque sorte des valeurs traditionnelles qui ont fait défaut à la France en 1939. Et ce retour à la terre s'inscrit dans une idéologie agrarienne se développe pendant plusieurs années et qui est soutenue quand même par la majorité des Français qui voient dans le maréchal Pétain l'un des leurs. N'oublions pas que le maréchal Pétain est descendant de paysans et frère d'agriculteurs.
Voilà, c'est ça. Donc il y a une ruralité de ce régime, même si en fait, si on regarde bien, la quasi-totalité des membres des cabinets, etc., Vichy, sont non seulement des citadins, mais des grands bourgeois. Mais enfin, le régime, lui, veut s'ancrer dans la terre. Comment est-ce que c'est reçu dans les campagnes, cette propagande de Vichy ?
Alors c'est difficile à dire. Il faudrait faire une enquête statistique et pondérée pour bien répondre à votre question. Mais tout laisse à penser que pendant les premiers mois et la première année, il y a une acceptation générale, sauf exception. Ce n'est que la seconde année, c'est-à-dire à partir de 1941 et surtout 1942, que, évidemment, un certain nombre de désaffections se multiplient.
Il ne faut pas oublier un rôle très important des campagnes aussi pendant l'occupation, c'est qu'elles nourrissent les villes. Les gens prennent les vélos, souvent, le week-end, et s'en vont à la ferme la plus proche. Souvent, on a de la famille à la campagne. C'est encore une fois cet ancrage des Français dans la ruralité. Tout le monde a des attaches, et on va chercher un poulet, on va chercher ce qu'on peut pour manger, tout simplement.
Oui, parce que ceux qui restent, hein, ce sont évidemment les femmes, des prisonniers. Puis c'est quand même
il y a eu pas mal de réfugiés après l'exode aussi. Hein,
et puis, il y a aussi les vieux qui restent sur l'exploitation, et puis il y a aussi les enfants, les jeunes. Donc le travail agricole se poursuit et alimente l'ensemble de la France.
Alors nous avons dit que cette seconde guerre mondiale avait moins marqué de rupture que la première pour les campagnes françaises, mais quand même, du point de vue de l'organisation des campagnes, du point de vue de la mécanisation et de tout ce qui va arriver, toutes les grandes réformes politiques, structurelles, le remembrement, etc., on peut dire que 1945-46, c'est quand même une cassure, objectivement. Jean-Marc Morisseau.
On est en pleine reconstruction. Il faut bien voir que là, les Français ont bien compris que leur agriculture a une fonction productive capitale. Il faut en terminer avec le rationnement. Ça va prendre 2 ou 3 années quand même. Il faut nourrir les villes. Et puis très vite, il va falloir nourrir la France et très vite, nourrir la planète.
Mais
et
maintenant, il y a des tracteurs, donc ça change un peu, évidemment, l'organisation.
Mais il se multiplie à partir du plan Marshall, 1947, et surtout dans les années 1950.
Et qui dit plan Marshall dit crédit, évidemment. Et alors, nous n'entrerons pas, on ne va pas aller dans cette période aussi récente, mais quand même, le crédit, notamment le crédit bancaire, va marquer... va plomber, mais en tout cas va handicaper d'une certaine façon les campagnes, tout en permettant aux fermes de s'équiper, bien entendu, de façon spectaculaire.
C'est une vraie révolution quand même pour beaucoup. Le crédit était un crédit familial jusqu'à présent. Seuls les riches paysans avaient accès à un crédit urbain. Et là, il y a la généralisation d'un crédit rural, avec le crédit agricole en particulier, qui dans les années 1950-60 permet évidemment des emprunts et un équipement lourd.
Pour beaucoup d'entre nous, là, je parle déjà de ma génération. Nous nous rapprochons évidemment de l'époque actuelle. Quand on pense à la campagne, c'est d'abord le lieu de la chasse. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que le week-end, que font les citadins? Ils vont renouer avec leurs racines en allant chasser, tout simplement. Un droit acquis à la Révolution française, du reste.
Tout à fait. C'est vraiment une revendication sur le territoire que celle de pouvoir chasser, une activité de loisir qui est très fréquente dans le monde rural. Et qui culmine dans les années 50 avec cette grande battue au loup, qui est la dernière grande battue, qui a donné lieu quand même à des primes, à des demandes de primes, hein, de destruction de loups, alors que l'animal est maintenant protégé. Il y a un renversement complet, justement, de l'attitude à l'égard de l'animal nuisible que l'on voit à travers cette battue au loup qui illustre ces doubles passes sur la chasse.
Alors, est-ce que vous permettez, Philippe Madeline, qu'on en arrive au sujet qui fâche maintenant? D'abord, le grand remembrement, ce sont les années gaulliennes. Là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce remembrement? De quoi est-ce que ça part?
Alors, le remembrement n'est pas des années 50-60, il est bien antérieur. Et il a porté ses fruits, notamment dans les zones de grande culture. Mais là, il arrive dans les zones de bocage, et notamment dans peut-être la région où il a été le plus spectaculaire, c'est-à-dire dans l'Ouest. Mm-hmm. Et là, on parle de grand remembrement parce que on fait, dans certaines communes, ce qu'on appelle un remembrement table rase. On enlève toutes les traces du passé, on enlève toutes les haies. Tout ça pour la mécanisation, pour la motorisation du travail.
Hein, on américanise un peu l'agriculture française, on peut dire ça.
Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que on crée un maillage parcellaire pour le travail.
Plus rationnel, beaucoup plus rationnel. On est fini des petites mosaïques de propriétés héritées des siècles passés. On fait de grandes parcelles qui sont plus facilement arables, tout simplement.
On les agrandit. Parce que depuis les années 60, il y a eu plusieurs remembrements dans les communes. Hein, donc, effectivement, on continue à grandir en fonction de l'évolution des moteurs, des tracteurs.
Il y a des grandes lois d'orientation agricole au tout début des années 60 qui vont donner une impulsion très forte à cette restructuration profonde des campagnes. Et puis alors, évidemment, je parlais de sujets qui fâchent, arrive la fameuse politique agricole commune qui commence mal du point de vue du général de Gaulle avec cette fameuse politique de la chaise vide, mais qui peu à peu va devenir l'élément central autour duquel va tourner l'exploitation agricole.
Oui, on est au début des années 60, 60 et 62 avec la PAC, et on est dans cette décennie où, en gros, on fait confiance à l'agriculture. C'est cette agriculture qui va nourrir, c'est cette agriculture aussi qui va permettre d'exporter des produits agricoles en France, en Europe et dans le monde. Et donc, on est là dans une période tout à fait faste, dans laquelle l'agriculture est donnée comme un élément essentiel de l'économie française.
Alors, il y aurait encore un certain nombre de sujets à évoquer, mais ce seraient des sujets qui nous feraient entrer tout simplement dans l'actualité. Je renvoie les lecteurs, les auditeurs à votre ouvrage, Les Paysans, un ouvrage donc interactif en quelque sorte, plein de surprises et qui est publié aux éditions des Arènes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus jusqu'ici, jusque à ce stand des produits laitiers au hall 3 du Salon de l'agriculture pour nous parler de la vie des campagnes depuis un peu plus de 100 ans. C'est une belle lecture que nous proposons à nos auditeurs aujourd'hui.